Ô Dieu, que ta grâce nous soit donnée, que ton esprit nous renouvelle et nous éclaire, afin que ces moments que nous passons sous ton regard, à l'écoute de la parole de Dieu, soient bénéfiques pour chacune de nos vies, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, mes amis, la portion que nous avons à considérer ce matin et que vous avez lu tout à l'heure peut être intitulée « L'état moral de l'homme devant Dieu ». Ce chapitre premier de l'épître aux Romains, dont vous avez considéré la dernière partie, les versets 18 à 32, contenait donc, premièrement, la salutation de l'apôtre aux chrétiens de Rome, versets 1 à 7, les actions de grâce et les prières de l'apôtre pour eux, comme aussi son désir de les visiter. Ce fut le sujet de notre étude de samedi matin, versets 8 à 15. Et hier, les versets 16 et 17, qui furent à la base de notre prédication, contenaient tout le sujet de l'épître. Et après cette annonce que l'évangile est vraiment la puissance de Dieu et non une simple doctrine, une règle de conduite pour l'homme, comme la loi l'avait été, Paul va maintenant considérer tout naturellement pour quelles raisons Dieu a dû déployer un tel amour. La cause déterminante, c'est la ruine irrémédiable du monde entier, la culpabilité de tous les hommes devant Dieu, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs. C'est donc cet état moral de l'homme devant son Créateur qui fait l'objet de notre méditation de ce jour. Si Dieu voulait sauver les hommes, il fallait qu'il trouve un terrain sur lequel il pût faire grâce à tous, non seulement sans faire de tort à sa justice, mais au contraire, en se fondant sur elle. Au point où en étaient les choses, dans le monde, le Dieu Saint ne pouvait révéler que sa colère. Et c'est ce que vous avez à partir du verset 18e. La colère de Dieu doit se révéler du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, avez-vous lu. Et cela peut-être un peu nous choquer, d'entendre parler de la colère de Dieu, alors que si souvent on vous parle du bon Dieu, mais ce n'est pas possible que Dieu puisse nous manifester de la colère, puisqu'il est amour et qu'il est essentiellement bon. Bien, mes amis, vous devez prendre conscience que la colère de Dieu existe. Et si vous voulez bien vous en souvenir, rappelez-vous que les jugements de Dieu se sont déjà manifestés dans l'histoire du monde. Au jour de Noé, quand la violence et la corruption devinrent généralisées sur la terre, il y eut quoi ? Le déluge, qui les fit tous périr, à l'exception de Noé et des siens et des animaux qui avaient été recueillis dans l'arche pour la conservation des espèces. Il y eut aussi comme jugement la condamnation de Sodome et de Gomorre, ces villes impies dont le péché criait jusqu'au ciel. Il y eut aussi le jugement qui frappa le Pharaon endurci qui ne voulait pas laisser sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Dans le désert, après la destruction des Égyptiens et du Pharaon dans la mer Rouge, il y eut aussi dans le désert un jugement contre des Israélites qui s'élevèrent contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Cette révolte qu'on appelle la révolte de Corée, d'Athan et Abiram, et quel fut le jugement à ce moment-là? Si ce sont les eaux qui ont englouti le Pharaon, c'est la terre qui s'est subitement ouverte et qui a englouti les révoltés associés à Corée, Dathan et Abiram. Ils furent engloutis vivants au sein de la terre. Donc, il y a déjà eu dans le passé des jugements de Dieu. Mais ces jugements-là, on ne peut pas encore les appeler la colère de Dieu. La colère de Dieu, voyez-vous, elle s'est manifestée justement quand Dieu a voulu, dans son amour immense, sauver l'humanité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incarné et il a envoyé son fils unique, pour nous délivrer de cette colère de Dieu qui s'amassait sur nous à cause de notre endurcissement, de nos péchés, de notre rébellion. Et sur la croix, vous pouvez voir ce qu'a été la colère de Dieu qui a frappé son propre fils, son unique, lorsqu'il s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus subissait toute la colère de Dieu manifestée contre le péché. Et vous avez, dans la révélation de la croix, vous avez vraiment la vision de ce que peut être le péché. Si vous n'avez pas eu cette vision de la croix, si vous n'avez pas éprouvé ce que Jésus a dû éprouver dans ce moment terrible de sa séparation d'avec Dieu, alors qu'il était son unique, qu'il était son fils, qu'il était toujours en communion avec lui, eh bien, vous ne saurez jamais ce qu'est le péché, et vous n'aurez jamais l'horreur du péché. Je demande que le Saint-Esprit vous donne la vision de ce qui s'est passé au calvaire. De sorte que, maintenant, cette colère de Dieu qui a frappé Jésus, selon toutes les Écritures, elle a été détournée de nous. Et Dieu peut maintenant nous faire grâce, tout en restant entièrement juste, parce que sa sainteté et sa justice ont été satisfaites dans l'expiation qu'a accompli Jésus-Christ au sujet de tous nos péchés. Dieu maintenant peut rester juste en faisant grâce, parce que il ne passe pas l'éponge sur le péché, il nous l'a montré en Jésus, il a frappé son fils. Expiation a été faite à la croix pour tous nos péchés, de sorte que il n'y a plus de colère pour ceux qui acceptent Jésus dans leur vie. La colère de Dieu s'est détournée, elle a frappé Jésus. Il n'y a plus de colère pour ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, qui acceptent ce don de Dieu, qui manifeste la pleine justice de Dieu. Car vraiment, à la croix, Dieu se trouve justifié de toutes les accusations qu'on pouvait porter contre lui. Les hommes qui disaient, mais enfin, si Dieu était juste, pourquoi est-ce qu'il condamne l'homme pécheur? Nous n'avons pas demandé de naître. Eh bien, Dieu nous montre que Il ne nous condamne pas parce que nous sommes nés pécheurs, mais qu'Il nous condamne parce que nous aurons refusé sa grâce, nous aurons refusé son amour. De sorte que si vous refusez la révélation de cette justice de Dieu qui est vraiment merveilleuse, Dieu a pris la responsabilité du péché, si vous refusez cette révélation, que vous apporte l'Évangile, puissance de Dieu pour sauver les hommes, qu'est-ce qui reste sur vous? La colère. C'est ce que vous trouvez dans Jean, chapitre 3, verset 36e. Eh bien, si vous ne voulez pas du Seigneur Jésus, la colère de Dieu demeure sur vous. Vous avez cela au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est quelque chose d'extrêmement clair. Alors maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi il est question de la colère de Dieu dans cette fin de chapitre des Romains. La colère de Dieu, maintenant, se révèle du ciel. Qu'est-ce qui s'est révélé maintenant pour nous? La justice de Dieu. Vous voyez, la justice de Dieu nous est révélée dans quoi? Dans l'Évangile. Alors, si vous acceptez l'Évangile, et si vous acceptez la justice de Dieu, qui n'est pas une justice humaine, ne pensez pas que vous pouvez être sauvé par une justice humaine. La loi, l'observation de la loi, n'a amené personne à la gloire de Dieu. Au contraire, la loi a manifesté l'état incurable du cœur de l'homme, sa faiblesse et sa corruption. Il n'y a de salut qu'en la grâce de Dieu manifestée dans l'Évangile, dans le don de son Fils. Il n'y a possibilité pour vous d'être sauvés que par la foi, qu'en croyant maintenant à cet amour gratuit de Dieu. Vous étiez perdus, morts dans vos fautes et dans vos péchés, et Dieu vous donne la possibilité d'être sauvés en Jésus-Christ. Mais croyez-le bien, si vous refusez ce salut gratuit, si vous refusez la révélation que vous donne l'Évangile, qu'est-ce qui demeure sur vous? La colère de Dieu. Et ce monde va au-devant de cette colère. La colère à venir dont parle Paul. Elle se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas la vérité? Mais parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 3 de Jean. On ne veut pas venir à la lumière pour que nos œuvres ne soient pas manifestées. Et on préfère vivre dans les ténèbres. Mais les ténèbres n'effacent pas nos péchés. Ils sont toujours manifestes aux yeux de Dieu, même dans les ténèbres. Alors, cette colère va se révéler du ciel contre toute impiété. Comme il y a eu un jugement du déluge, au déluge, comme il y a eu le jugement de Sodome et Gomorre, il y aura un jugement universel sur les hommes qui auront refusé de croire. Et tous sont manifestement responsables. C'est ce qu'établit les versets que vous avez lus. Car ce qu'on peut connaître de Dieu a été manifeste pour eux. Dieu le leur a fait connaître. Que ce soit les nations dites païennes ou que ce soit la nation juive, la vérité essentielle concernant Dieu a été manifestée manifestée dans ses œuvres. Païens ou juifs ont pu voir les perfections invisibles de Dieu, comme aujourd'hui encore, celui qui a les yeux ouverts est obligé de remarquer ses perfections. Sa puissance éternelle, sa divinité, ça se voit comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc la création en elle-même, les œuvres que Dieu a faites, rendent tous les hommes inexcusables de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et l'apôtre montre bien que au début, on a eu la connaissance de Dieu, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Coupés de la source de la lumière, les hommes sont entrés de plus en plus dans les ténèbres. Et puis, se séparant de Dieu, ils ont voulu se déifier eux-mêmes. Et c'est là la folie humaine. Se disant sages, ils sont devenus fous. Et vous voyez alors ce que les païens ont fait. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images représentant d'abord l'homme corruptible. L'homme s'est déifié. S'étant éloigné de Dieu, il a oublié le Dieu unique et il a voulu être lui-même son propre Dieu. Puis, il s'est corrompu de plus en plus, l'orgueil va devant la ruine, et il est arrivé à déifier des quadrupèdes, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Il y a une régression dans cette connaissance de la divinité. Alors, la conséquence de cela, c'est que Dieu les a livrés à l'impureté. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Dieu vous appelle une fois, deux fois, il vous offre sa grâce. Mais si vous refusez d'entendre la voix de Dieu, qu'est-ce qui vous arrivera? Dieu vous laissera. Et c'est la pire des choses. C'est ce moment où Dieu vous laisse faire ce que vous voulez. Vous voulez vivre à votre manière, à votre guise, sans vous soucier des lois de Dieu. Vous voulez transgresser les lois naturelles. Eh bien, faites, mais vous irez par bon vers la mort. C'est vous-même qui subirez les conséquences de vos inconséquences, puisque vous ne voulez pas de Dieu, Dieu vous laisse. Et il vous livre à l'impureté. Tu veux continuer de vivre dans la souillure, eh bien, souille-toi encore. Que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est impur commette encore l'impureté. Puisque vous voulez être conduit par les convoitises de vos cœurs et non plus par ma parole, eh bien, je vous laisse. Et alors, qu'est-ce qui arrivera? Eh bien, ils se déshonoreront eux-mêmes, ils déshonoreront leur propre corps. Et c'est ce que vous voyez qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parce que l'homme a changé la vérité de Dieu en mensonge. Et comme le disait Nietzsche il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, il disait qu'il travaillait à transvaluer les valeurs. Eh bien, c'est bien ce qui est arrivé. On a changé la vérité en mensonge. Le bien, on l'a appelé mal, et le mal, on l'a appelé bien. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Quand on entend même, pour moi, vous direz que je suis puriste, mais c'est pas vrai. Je trouve que c'est un abus de langage. On adore ce qu'on mange. Oh, j'adore le fromage. J'adore ceci, j'adore le chocolat. J'adore, tout le temps j'adore. Ça me bassine, ça m'irrite. Pourquoi est-ce que vous ne changez pas de langage? Un seul Dieu, tu adoreras. Que vous soyez catholique, romain, protestant, tout ce que vous voudrez, c'est le même catéchisme. Il y a un seul Dieu. Alors, dépouillez-vous de ce langage-là. Gardez votre adoration pour le Seigneur. Comme Abraham, prosternez-vous devant le Seigneur. Et n'adorez pas les idoles du siècle présent. Quand on voit ce que l'on trouve dans les chambres de la jeunesse aujourd'hui, mais c'est une véritable adoration. On dit qu'on n'a plus de statues, plus d'idoles, mais vous avez des posters. Vous direz qu'il y en a aussi ici, mais enfin c'est la nature ici. Hein. Mais là-bas, ben, c'est des têtes de qui? De stars, de vedettes. Et c'est cela, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de crucifix dans votre chambre, bien sûr. On est tanné de ce grand cadavre. Hein. Je vous dis pas qu'il faut prendre un crucifix. Mais enfin, ce n'est pas Jésus, votre vedette. Ben, j'espère qu'il est autre chose qu'une vedette, n'est-ce pas? Et que vous ne ferez jamais de Jésus votre vedette. Mais regardez comme c'est l'impression du temps moderne ici. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Est-ce que c'est Dieu qui est adoré aujourd'hui? Eh bien, puisse-t-il y avoir dans ce camp Mahanaïm 1981 des jeunes gens, des jeunes filles qui se lèveront pour être les adorateurs du vrai Dieu, et qui le seront dans la totalité de leur cœur. Parce que, regardez le verset 26, voilà le deuxième, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Oh, vous me direz, mais enfin, c'était exagéré, ce pauvre saint Paul, vraiment, il n'était pas moderne. Hein? Mais non, il vivait ces choses de son temps. Il vivait toutes ces choses existaient de son temps. La ville de Corinthe, où il a évangélisé, était réputée pour ses passions infâmes, pour sa luxure. C'était la capitale de la luxure de son temps. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les lesbiennes. Eh bien, aujourd'hui, eh bien, il y a des mariages qui se font. Et il y a même eu des prêtres qui ont osé bénir des mariages entre femmes. Ce sont des passions infâmes. C'est pas moi qui vous le dis. L'Écriture le dit. Et c'est la parole qui vous jugera. Et puis, de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant l'infamie, comme étant des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils ne savent pas ce qui les attend, même au point de vue des maladies qu'ils contacteront ou qu'ils contactent déjà par leur propre égarement. Mais aujourd'hui, on dit, mais non, mais puisqu'on s'aime, il n'y a pas de problème. Puis on le chante. Et puis ça chante même jusqu'en vous, parce que vous entendez ces mélodies à la radio, à la télévision, et on s'habitue à voir le mal. Et on prendra dans sa chambre à coucher une vedette qu'on mettra avec, sa photographie, et l'on sait pourtant qu'il vit dans ses passions infâmes. On sait que c'est un homosexuel. Je n'ai pas de mépris pour eux, mais une immense souffrance. Ils vivent dans le péché. Mais un jour, entre pasteur et prêtre, nous avons eu une rencontre au sujet, justement, de ce qu'était réellement l'amour. Eh bien, si vous aviez entendu ce que des prêtres et des pasteurs ont osé dire pour justifier l'homosexualité, ça ne veut pas dire qu'on méprise les homosexuels. Nous les aimons, mais ils ont besoin du salut. Mais si vous voulez dire que l'homosexualité, ben c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de permis, et que vous pouvez même bénir une union pareille, ben évidemment, ça aide au planning familial. C'est une solution. Il n'y a pas d'enfant. Mais vous vous rendez compte que Dieu voit tout cela? Et alors la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout cela. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, mais les gens ne se soucient pas de connaître Dieu, mais ils sont baptisés. Et puis on va encore à l'église. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Vous avez là le tableau que Paul prête aussi dans le chapitre 3 de la deuxième épître aux à Timothée, où il montre ce qui en sera dans les derniers jours. Les hommes seront rapporteurs aussi médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au malin, on est capable de faire le mal. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Car qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'arabe Job, le patriarche qui vivait avant Moïse même, eh bien, il l'avait découvert. Se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. Ils sont dépourvus de loyauté et aussi d'affection naturelle. On ne sait plus aimer ses parents. Le grand commandement, avec promesse, c'est « Honore ton père et ta mère ». Eh bien, quand on voit ce qui se passe dans les familles, évidemment que les parents sont aussi responsables, mais les enfants doivent retrouver ce commandement divin pour être bénis. Sans affection naturelle, sans miséricorde, et notez bien, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, on sait très bien qu'il y a un jugement de Dieu contre ces choses-là, déclarant dignes de mort ceux qui les commettent, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors je vous le demande, est-ce que vous approuvez ceux qui les font? Je ne dis pas que vous devez juger ceux qui les font, que vous devez être méchant à l'égard de ceux qui les font, mais que vous devez prier pour ceux qui les font, et que vous devez vous séparer entièrement de ces pratiques-là, si vous voulez avoir encore affaire avec le Seigneur. Ça, dans ce chapitre, cela concerne aussi bien les Juifs que les païens, c'est tout homme. Alors, maintenant au chapitre 2 que vous avez vu, du verset 1 au verset 11, les Juifs aussi bien que les païens sont pécheurs et ont besoin du salut gratuit, car le jugement de Dieu est pour tous selon la vérité. Ô homme qui que tu sois, toi qui juges, voilà maintenant, ça me concerne, hein, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et c'est cela qui nous montre que Dieu est opposé entièrement à l'hypocrisie. Ne soyons pas des hypocrites. Et nous connaissons tant de gens qui jugent les autres et qui font ces choses-là, mais en cachette. Il y a toujours eu, même dans le paganisme, des gens qui ont voulu ramener une certaine morale dans le monde. Mais quand on examine un peu leur vie, on voit qu'ils faisaient ces choses-là. Je pense à Socrate et à d'autres. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Tout au fond, vous savez bien que c'est vrai, que Dieu ne peut pas vouloir ces choses qui sont contre nature. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Alors, vous voyez que ça nous concerne. Maintenant, si nous sommes d'accord que l'état du monde est bien comme il est dépeint dans le chapitre 1er, eh bien, faisons attention alors. Est-ce que nous faisons ces choses-là? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? Vous connaissez maintenant les richesses de la bonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a donné dans sa bonté? Son Fils. Il nous a donné sa parole, il nous a donné les prophètes, mais en plus de tout cela, autant convenable, il nous a donné son Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour des impies. Vous connaissez les richesses de sa bonté, vous connaissez les richesses de sa patience. Il parle une fois, deux fois, il ne nous atteint pas tout de suite par le jugement. Il a donné 120 ans au temps de Noé, hein, pour que les gens se repentent, pour qu'ils échappent au déluge. Il a donné au temps de Ninive, combien de jours? 40 jours à Ninive. Mais dans les 40 jours, les Ninivites se sont convertis. Et le jugement n'a pas été exécuté à ce moment-là, un siècle plus tard, oui, parce qu'ils sont retombés dans leur faute. Alors, vous connaissez les richesses de sa bonté, vous connaissez les richesses de sa patience, vous connaissez les richesses de sa longanimité. Alors, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Si Dieu ne frappe pas immédiatement tous ces gens qui vivent d'une façon contre nature, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'il admet ça? C'est parce qu'il les aime. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. C'est ce que vous devez comprendre. Et il voudrait que sa bonté, sa patience nous pousse à la repentance. Et qu'est-ce que la repentance? C'est pas seulement se juger de nos tendances et en souffrir, mais c'est changer complètement d'orientation. C'est recevoir une nouvelle nature. La repentance, c'est une œuvre progressive que Dieu accomplit en nous, car la repentance, on la fabrique pas. Mais quand on vit dans la présence de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, on voit tout à coup qu'on vit dans le mal. Et moi, ce qui m'a convaincu que j'étais mauvais, c'est quand j'ai réalisé que je n'aimais pas. Je n'aimais pas Dieu, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Et c'est là que j'ai compris que j'étais méchant, méchant, méchant. Comment cela peut-il se faire que mon cœur n'aime pas ce Dieu de bonté et d'amour? Ce qui m'a convaincu de pécher, c'est de voir que je n'aimais pas. Je n'ai pas besoin d'avoir commis toutes sortes d'iniquités pour savoir que je suis mauvais. Et alors, je lui ai demandé de me donner un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, c'est celui du Seigneur qu'il nous donne. Cette repentance, c'est un changement d'orientation, c'est un changement de vision, c'est un changement de vie qui vous amène un changement de goût, qui vous amène vraiment une nouvelle nature. Et ayant une nouvelle nature, on a des goûts nouveaux et nous ne voulons plus retourner à notre ancienne vie. La puissance de Dieu nous tiendra dans la vie nouvelle. Mais alors, si on s'endurcit, mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses alors un trésor de colère. Vous ne voulez pas le trésor de bonté? Qu'est-ce que vous vous amassez? Ne vous y trompez pas. Vous vous amassez un trésor de colère. Vous voulez le trésor de colère? Bien, allez-y. Un trésor de colère pour le jour de la colère. On n'est pas encore au jour de la colère. On est encore au temps de la grâce. Il y a une vie dans sa faveur, mais il y a un jour dans sa colère. Et la manifestation du juste jugement de Dieu aura lieu et il rendra à ce moment-là à chacun selon ses œuvres. Et c'est pourquoi il est dit que toute bouche sera fermée, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Parce que la vie éternelle, on l'a dès l'instant où l'on croit. Mais on l'a en espérance. Tandis que là, il est question de cette vie éternelle qu'on possédera alors dans la plénitude, dans la réalité, non plus dans des corps de faiblesse, dans des corps de chair, mais dans ces corps glorieux. Voilà ce qui nous est réservé, la vie éternelle. On doit déjà la saisir, elle est là. Saisis la vie éternelle. Dit l'apôtre. Alors, par la foi, je crois et j'ai déjà la vie éternelle, mais j'en jouirai pleinement dans l'éternité. Il nous réserve cette vie éternelle. Mais vous voyez, cette vie éternelle est au bout d'un chemin de foi. Vous êtes sauvés par la foi. Vous recevez la vie éternelle par la foi, mais pour vivre ensuite une vie de foi. Alors il y a, dans la vie de foi, il y a la persévérance à bien faire et à chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous savons où nous allons, nous avons un but. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Au lieu de livrer nos membres à la justice de Dieu pour qu'il en fasse des instruments de justice, nous livrons nos membres à l'iniquité. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura tribulation, angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Et du juif premièrement. Pourquoi est-ce qu'il est dit du juif premièrement? Parce qu'il a plus de responsabilités que le païen, parce que lui, il a reçu encore, en plus de la loi naturelle, et en plus de sa conscience, il a la loi écrite. Comprenez-vous? Alors, le juif est plus responsable encore parce qu'il a la loi écrite. Puis, du grec, qui avait sa conscience pour le diriger, et Dieu, même aux païens qui avaient leur conscience, ne s'est pas laissé son témoignage au milieu d'eux, comme Paul le dira. Il leur faisait du bien à tous, leur donnant des pluies et des saisons fertiles, et remplissant leur cœur de joie par ses bontés. Même la joie des païens, c'est une joie qui vient de Dieu. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients de cela, mais Paul veut les rendre conscients, mais tout les bienfaits dont vous pouvez jouir, même quand vous ne connaissez pas Dieu, ils viennent de Dieu. Tout don parfait descend d'en haut. Et ne vous figurez pas que Dieu ne bénit que les justes. Il fait tomber sa pluie aussi sur les méchants. On est en plein évangile. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement, parce qu'il y a, faut pas mettre tous les juifs dans la même catégorie. Il y a des juifs qui font aussi le bien. Pour le juif, alors, premièrement, puis pour le grec, pour le païen. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Eh bien, que ces vérités vous pénètrent. Et alors, dans la deuxième partie de ce chapitre, vous voyez, versets 12 à 16, juifs et païens seront jugés d'après la loi qu'ils ont connue. Les premiers par la loi écrite et les derniers par leur conscience. Dieu va juger toute chose d'une façon extrêmement juste. Ne pensez pas un seul instant qu'il y ait de l'injustice en Dieu. Tous ceux qui ont péché sans loi périront sans loi aussi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous savez que avant que la loi ait été donnée à Moïse, eh bien, le péché existait déjà, puisque tous sont morts, hein, jusqu'à Moïse. Même ceux qui n'avaient pas péché selon la transgression d'Adam, comme nous allons le voir plus tard. C'est bien la preuve que le péché régnait déjà. Mais le péché n'était pas encore mis en compte à l'homme. C'est seulement après. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, les ruminants, si vous voulez. Nous retrouvons. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi. Parce qu'on peut aussi être de ceux qui écoutent la parole, mais si nous ne la mettons pas en pratique, qu'est-ce qui va nous arriver? Ce n'est pas la loi qui va nous sauver. Ce n'est pas notre connaissance orthodoxe des vérités du christianisme qui vont nous sauver. Mais c'est de mettre en pratique la volonté de Dieu, qui prouve alors la réalité de notre foi, que notre foi est réellement cette obéissance. Parce que, voyez ce qu'il dit au verset 14, « Quand les païens, qui n'ont point de loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux aussi qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. » Et il y a eu des païens qui n'avaient pas la connaissance de la loi de Dieu, mais qui ont eu assez de sens moral pour faire ce que disait la loi, sans connaître cette loi. Vous voyez, Joseph, par exemple, quand il a été tenté par la femme de Potiphar, il n'avait pas la loi qui disait « tu ne commettras pas adultère ». Mais lui, il dit à cette femme « comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre Dieu ?» Il ne dit pas « contre ton mari » déjà. Mais il a déjà la conscience que prendre la femme d'un autre, prendre la femme de son maître, c'est un péché. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait courant. Son maître n'avait qu'à faire le nécessaire pour garder sa femme. Qu'il sorte un peu moins souvent. Il me donne l'occasion. Alors, pourquoi est-ce que je ne me servirais pas? Voilà où nous en sommes arrivés dans notre dépravation et dans notre raisonnement. Mais attention, quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou et se défendant tour à tour. C'est facile à comprendre, ça, j'abrège. C'est ce qui paraîtra au jour de, ou selon mon évangile. Et qu'est-ce que c'est l'évangile de Paul? C'est un évangile contraire à l'évangile de Dieu? Non, mais il a mission d'annoncer l'évangile. Et il est tellement convaincu que c'est vraiment l'évangile qu'il peut dire non, l'évangile. Il n'y a pas de différence entre l'évangile de Paul et l'évangile de Dieu. Dieu en est la source de cet évangile. C'est pourquoi c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Christ parce que le Christ en est l'objet de cet évangile. Mais c'est l'évangile de Paul parce que Paul est chargé de le prêcher. Comprenez-vous? C'est toujours le même évangile. Vous ne devez pas opposer ces évangiles. C'est un évangile. Il y a un seul évangile. Et quand Paul parle de son évangile, c'est le message que Dieu lui a donné de prêcher et qui est la puissance de Dieu. Dieu jugera selon mon évangile, par Jésus-Christ, les actions secrètes des hommes. Figurez-vous que vous serez examinés en toutes choses. Alors, toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Alors, versets 17 à 29, la troisième partie, connaître la loi et la violer entraîne une condamnation d'autant plus certaine. Alors, si les Juifs, et qui se donnaient donc le nom de Juifs, qui se reposaient sur la loi, qui se glorifiaient de connaître le vrai Dieu, tandis que les païens adoraient les animaux, et qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, et qui se flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Ils avaient un grand mépris pour les païens, mais aussi de la condescendance et le désir de les éclairer. C'est pourquoi il y avait bien des païens qui se convertissaient par le ministère de Juifs. Ils étaient docteurs des insensés, maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Ils étaient conscients de cela. Mais alors, regardez leur responsabilité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches aux autres de ne pas dérober, tu dérobes. Regardez Moïse, qui était le conducteur d'Israël, pour un instant où il a failli, où il a manqué de foi, où il a frappé deux fois le rocher au lieu de lui parler, il a reçu une punition, il n'a pas pu entrer dans le pays. Alors combien nous devrions être sérieux et ne pas être seulement des théoriciens. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, si tu commets adultère, toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Et c'est vrai. Mais alors vous pouvez dire la même chose au sujet des chrétiens. Si les païens seront jugés d'après leur conscience, si les juifs seront jugés par la loi écrite, nous serons jugés par quoi? Nous serons jugés par la connaissance que nous avons eue de Christ. C'est à la lumière de la vie de Jésus, vie que nous connaissions, que notre vie sera jugée. Ça va beaucoup plus loin que la loi. Le juif sera jugé par les 10 commandements. Mais nous connaissons celui qui a dit « Mais moi, je vous dis ». Et nous connaissons comment nous pouvons réaliser cette vie, parce que cette vie nous l'a donnée. À nous de l'accepter, à nous de la recevoir, à nous de laisser vivre le Christ en nous. Et souvenez-vous de cela, comme notre vie devrait être sainte. Quels gens devrions-nous être? Et puis, comprenons-le bien, ce n'est pas de nous dire chrétien qui compte, c'est de l'être. Ce n'est pas de se dire juif qui compte. Parce qu'un païen pourrait être un vrai juif s'il met en pratique la loi sans même la connaître. Et c'est là que vous avez verset 25. La circoncision est utile. Et nous avons vu pourquoi Dieu l'a donnée ce matin à Abraham comme signe de son alliance. Et cette circoncision, c'était donc enlever une portion là, du prépuce de l'homme qui était pour le juif le signe de sa consécration à Dieu. Bon. C'était là un signe qu'il avait dans sa chair. Eh bien, c'était utile parce que ça rappelait l'alliance, mais il ne faut pas que ce soit seulement une circoncision dans la chair, il faut que ça devienne une circoncision du cœur. C'est cela que nous devons comprendre. Ce n'était que pour enseigner à Abraham qu'il appartenait à Dieu. Et il avait ce signe dans sa chair. Mais si je n'ai que le signe dans ma chair et que je fasse autrement, est-ce que ce signe va me sauver? Est-ce que le baptême va vous sauver? Non, n'est-ce pas? C'est le signe de la mort de Christ, mais il ne faut pas seulement que j'en aie le signe. Il faut que je vive cette mort, que je vive de cette mort et de sa résurrection. La circoncision est utile, le baptême est utile. Si tu mets en pratique la loi ou si tu mets en pratique les paroles de Jésus. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Ne nous gargarisons pas avec nos mots. Hein. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature et qui accomplit la loi ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en n'ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juste, ce n'est pas celui qu'il est, qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Tout cela peut être utile, mais ce n'est pas cela qui compte. Le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Ensuite, le chrétien, c'est celui qu'il est intérieurement. La circoncision réelle, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu, qui voit au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence de l'homme, mais il regarde au cœur. Alors, prenons maintenant le chapitre 3. Alors, l'apôtre Paul va au-devant de quelques objections. Il dit, mais au chapitre 3, il montre, versets 1 à 8, l'avantage des juifs qui subsistent malgré l'incrédulité des uns et les impies sarcasmes des autres. Il dit, quel est donc l'avantage des juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Parce qu'il ne voudrait pas ne pas être bien compris. Il n'a pas voulu dire que c'était inutile la circoncision et que le juif n'avait aucun avantage. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Vous l'avez bien compris. L'avantage du juif, mais il est grand de toute manière. Et vous allez le voir dans le chapitre 9. Où il insiste sur tous les avantages qu'avaient les juifs. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu lui ont été confiés. Qu'est-ce que c'est les oracles de Dieu? La loi. Il avait la loi écrite, donc c'était quand même un grand avantage. Dieu avait condescendu à écrire sur une table de pierre ses commandements. Alors verset 3, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'Abraham, malgré ses fautes, est-ce qu'il a été rejeté? Non. Alors, vous comprenez, ce n'est pas notre incrédulité qui anéantira la fidélité de Dieu. Dieu nous reste fidèle même si nous sommes infidèles, loin de là. Mais que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque tu juges. Oui, vous pouvez être sûr que c'est du côté de Dieu qu'est la vérité et que tous les raisonnements de l'homme sont des mensonges. Ne vous laissez pas impressionner par les raisonnements de l'homme. Dieu est vrai. Et je l'ai appris durant ces 50 années de vie avec le Seigneur, nous sommes menteurs. L'homme est menteur. Et dans la lumière de Dieu, on confesse que nous avons un fond de mensonge et que le mensonge vient de Satan. Alors on a renoncé entièrement au mensonge. Verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Là, vous comprenez, Paul parle à la manière des hommes. On dit, alors, ça favorise Dieu, notre injustice, hein, puisque ça fait éclater encore davantage sa justice. Mais ça se serait parler comme les hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Comprenons que si même le péché de l'homme prouve l'immensité de l'amour de Dieu, on ne va pas pécher pour que cet amour grandisse encore. C'est pas cela, pécherions-nous afin que la grâce abonde. Nous ne vont pas raisonner comme ça. Mais si notre injustice, c'est-à-dire la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment jugerait-il le monde? Qu'il n'y ait plus jamais dans vos cœurs la pensée que Dieu est injuste. Il est toujours juste. C'est nous qui nous trompons dans notre appréciation des choses. Et si par mon mensonge, il parle de nouveau à sa manière, n'est-ce pas? Parce que nous sommes menteurs de nature. La vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Pourquoi suis-je encore moi-même jugé comme pécheur? C'est là qu'ils raisonneront ainsi. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien, puisque Dieu arrive à sortir du bien du mal, hein? Alors ne prenez pas ce chemin. Cela nous montre la bonté de Dieu qui arrive encore à sortir du bien de notre misère. Mais ce n'est pas pour qu'on continue d'être misérable. Pourquoi ferions-nous pas le mal afin qu'il nous arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? Vous voyez comment faussaient les enseignements de l'apôtre, il n'avait jamais dit ça. Mais ça faisait penser cela. La condamnation de ces gens est juste. Alors quoi donc? Sommes-nous plus excellents maintenant, depuis ce verset 9 au verset 20, vous avez un résumé des deux chapitres précédents. Où, alors là, pour moi, c'est mon miroir. Je me regarde là, et vous savez, je ne me trouve pas beau. Si je me faisais des illusions. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, et là, vous avez ce miroir, ces versets que vous avez, là, vous pouvez les encadrer comme un miroir, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ils ont été le moyen de la conversion d'une multitude de gens. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Est-ce que c'est vrai? Nul n'est intelligent. Est-ce que c'est vrai? Oh, moi, je suis pourtant bien intelligent. Se retirer du mal, c'est cela, l'intelligence. Vous croyez que les gens se retirent du mal? Ils sont fous. Nul ne cherche Dieu. Est-ce que vous voyez les gens chercher Dieu aujourd'hui? Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Est-ce que vous admettez ça? Il n'en est aucun qui fasse le bien. Mais Dieu m'a oublié. C'est vrai? Pas même un seul. Puis alors vous voyez, toutes les parties de notre corps, on les emploie pour pécher. Le gosier, bon, c'est un sépulcre ouvert. Qu'est-ce qui sort de ce sépulcre? La pourriture. Mais nos paroles aussi devraient être changées. Qu'est-ce qui sort de notre gosier? Des paroles de grâce? Des paroles qui édifient? Qu'est-ce qui sort du gosier des hommes? Ils se servent de leur langue pour tromper. C'est fameux, hein, la langue. Ils ont tous sous leurs lèvres un venin d'aspic. Oh. Du venin sous vos lèvres? Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Que d'amertume, c'est vrai. Peut-être que vous ne maudissez pas, vous dites, oh, mais moi, je maudis personne. Quand même, vous n'êtes pas souvent content de ce sujet-là. Ils ont les pieds, regardez, maintenant c'est les pieds, légers pour répandre le sang. C'est pas les pieds fendus, ça. La destruction et le malheur sont sur leur route, quand vous voyez ce qui se passe, hein. La destruction, c'est vite fait. Et le malheur sur la route des hommes, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Vous croyez qu'à l'ONU, on connaît le chemin de la paix? On prétend qu'on veut la maintenir, mais on n'arrive pas. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est vrai ou c'est faux? Le jugement de Dieu, ce qui dit ça. Voilà l'état de l'homme. Il n'y a pas de crainte de Dieu aujourd'hui. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà. Coupable. Est-ce que vous plaidons coupable? Si vous ne voulez pas plaider coupable, c'est que vous voulez encore établir votre propre justice. Et que vous ne connaissez pas la justice de Dieu. Vos justices, c'est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Toutes vos bonnes œuvres, tout ce que vous avez voulu faire pour votre salut, ça ne vous sauvera pas. Car dans la lumière de Dieu, il sera manifesté pourquoi vous avez fait ces œuvres. Pour vous montrer peut-être, pour qu'on dise de vous que vous êtes bon, vous êtes doux, vous êtes bien. Vous êtes du beau monde. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est bon. Hein? Un bon diable. Alors, c'est comme les frères de Joseph. Nous sommes tous de braves gens. Ils osaient dire ça à Joseph. Mais nous ne sommes pas des espions. Nous sommes tous de braves gens. Vous imaginez. Ils avaient vendu leur frère. Ils voulaient le tuer. Ils l'avaient vendu. Pendant 20 ans, ils vivaient dans le mensonge. Ils osaient dire, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes de braves gens. Alors qu'ils étaient au fond des meurtriers. Et qu'ils avaient osé vendre leur frère. Mais vous voyez, la conscience n'était pas réveillée. Et il a fallu que Dieu travaille dans le cœur de ces hommes pour qu'ils reconnaissent qu'ils étaient coupables. Coupables, coupables. Et c'est seulement quand ils se sont reconnus coupables que Dieu les a restaurés. Et vous aussi, c'est ce que cette épître nous montre, c'est quand nous nous reconnaissons coupables, que nous serons restaurés, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et c'est vrai. Alors, mes amis, excusez-moi, j'ai essayé de couvrir ces trois chapitres dans le moins de temps possible. Est-ce que ça va? Bien, c'était trop long. Comment? Non, mais ça me fait plaisir de t'entendre. Mais je voudrais vivre avec vous cette parole. Et si j'essaye de vous la prêcher, c'est pour me la prêcher à moi-même. Merci. Non, mais nous sommes assez libres entre nous. Mais vous voyez, au fond, avec les animaux du soir, ça va tous se tenir, hein, parce qu'il y en a qui pensent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les animaux? Mais on les retrouve. Et vous allez voir qu'à la fin, on aura un enseignement global. Alors, prions les uns pour les autres, prie aussi pour moi, pour que je puisse avancer, que le Seigneur m'inspire. Alors, on va reprendre ce que nous avons vu dans le chapitre 2e concernant les païens. C'est une chose assez capitale, assez importante. Voyons, les versets... Oui. Là, il est dit au chapitre 2 concernant les païens, car tous ceux qui ont péché sans loi périront sans loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. Car quand les nations qui n'ont point de loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes, et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles, ou aussi s'excusant, seront jugées, dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile. Or, si toi, tu portes le nom de juste, et que tu te reposes entièrement sur la loi, et que tu te glorifies en Dieu, et que tu connaisses la volonté, et que tu saches discerner les choses excellentes, étant instruit par la loi, et que tu crois que tu es conducteur d'aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, instructeur des hommes dépourvus d'intelligence, maître des petits-enfants ayant la formule de la connaissance de la vérité dans la loi, toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Et plus loin, verset 25, car en effet la circoncision est profitable si tu accomplis la loi, mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Si donc l'incirconcision garde les exigences de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision? Et l'incirconcision qu'il est par nature, en accomplissant la loi, ne te jugera-t-elle pas, toi qui dans la lettre es la circoncision et transgresseur de la loi? Car celui-là n'est pas juif qu'il est du dehors, et celle-là n'est pas la circoncision qu'il est au dehors de la chair, mais celui-là est juif qu'il est au-dedans, et la circoncision est du cœur, en esprit, non dans la lettre, et la louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Je vous ai laissé donc tout ce passage dans son contexte. On se demande parfois, qu'est-ce qui arrivera aux païens qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ. C'est très délicat ce que je vais dire, et je ne voudrais pas être mal compris. Est-ce que tous les païens qui ont vécu avant la venue de Jésus sont perdus, selon vous? Parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. C'est absolument certain que, ayant la révélation des lois naturelles, qui les rendaient déjà inexcusables, mais ceux qui ont suivi ces lois et qui ont suivi leur conscience, dans la mesure où elle était éclairée par ces lois, eh bien, plaisaient à Dieu. Et sans même avoir la connaissance de la loi qu'avaient les Juifs, s'ils avaient eu la connaissance de Jésus, ils auraient certainement cru en lui. Alors, je pense, selon les Écritures, que ces gens-là, quand le Seigneur les jugera, il les jugera d'après leur degré de connaissance et d'après ce qu'ils ont été, et il pourra leur dire que s'ils sont sauvés, c'est en vertu de qui? De quoi? De l'œuvre de Jésus. Car l'œuvre qu'a accompli Jésus, il l'est accompli non seulement pour les péchés des Juifs, des Hébreux qui avaient vécu avant Jésus, mais pour l'humanité tout entière. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé. Hein. Mais ceux qui ont vécu dans cette lumière qui leur avait été donnée, eh bien, apprendront que c'est par Jésus-Christ qu'ils ont été sauvés. Alors oui, Corneille, alors lui, il a reçu l'enseignement après. Oui. Ça, c'est un très bel exemple, celui de Corneille. Mais il ne faut pas être de ceux qui, alors, diront, ben, alors, de toute façon, il y a des païens qui n'ont pas la connaissance de Jésus, mais ce n'est pas nécessaire de les évangéliser. Mais nous avons à les évangéliser pour qu'ils aient la joie du salut. Parce que ces païens qui cherchaient à plaire à la divinité, à plaire à Dieu, n'avaient pas l'assurance de leur salut. De sorte que l'apôtre Paul dit que lui, il souffre tout pour amener les hommes, les élus, à la connaissance de ce salut. Je souffre tout pour l'amour des élus. Ce n'est pas nous qui sauvons les âmes, mais nous devons leur apporter la connaissance de ce merveilleux salut. Et voilà pourquoi nous devons apporter l'évangile aux païens. Non pas la civilisation européenne ou américaine, mais le Seigneur. Malheureusement, dans beaucoup de missions, on a apporté bien autre chose que le Seigneur. On a apporté une civilisation. Oui.
Est-ce qu'on pourrait penser, selon le ministre, quand tu dis d'une punition pour mes plus sévères, c'est du jugement, selon le ministre, c'est dit que. D'une punition pour mes plus sévères, pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé au Fils?
Le Fils de Dieu.
Le Fils de Dieu.
Le sang de l'Alliance. Mais ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Quand tu as alors le reçu, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, eh bien, forcément que nous nous condamnons nous-mêmes. Il y a plus de possibilités de salut.
Dans le monde aujourd'hui, par exemple, dans les parents, c'est sûr qu'ils connaissent Jésus, mais ils ne connaissent pas vraiment. Ils connaissent juste celui de l'humain, mais ils ne connaissent pas vraiment
son religion. Oui, mais alors à nous de chercher, mais avec humilité, de leur montrer ces choses.
Mais pour toutes les personnes qui ont entendu parler de Jésus-Christ, comme ça, par les...
Oui, mais ne pensez pas, n'est-ce pas, qu'il n'y a que votre génération, parce qu'elle a maintenant la connaissance de la Bible, qui a été sauvé, et qu'au Québec, tous ceux qui n'ont pas passé par les milieux évangéliques seraient des perdus. Ça, je ne le crois absolument pas. Et je ne suis pas celui qui va mettre tout ce monde en enfer. J'ai entendu cette horreur ici au Québec de quelqu'un qui est un prédicateur maintenant, et qui me disait, c'est quand même fantastique hein, que je sois moi le premier depuis 200 ans à être sauvé dans ma famille. Ben zut. Ça, alors il envoyait tous ses ancêtres parce qu'il n'avait pas eu les connaissances que lui avait, il les envoyait à la damnation. C'est Dieu qui juge, et il juge d'après le degré de connaissance.
Parce que ce début de ma conversation, c'est quelque chose qui m'a trouvé, parce que l'ami où j'étais, que j'ai bien aimé, à un moment donné, il laissait entendre que si on avait pas fait ça de la manière évangélique, heureusement, j'avais toujours ce verset de Romains 2 qui disait Dieu jugera par Jésus-Christ les actions sociales des hommes. Ça me consolait parce que je ne pouvais pas voir certaines personnes auxquelles j'aurais aimé qu'il n'avaient pas eu la chance. Je ne pouvais pas les envoyer en enfer parce qu'ils n'avaient pas levé l'argent ou qu'ils avaient dit le témoignage. Ça me consolait chaque fois que j'avais voyé.
Ça, c'est tout à fait évident. J'ai répété souvent, n'est-ce pas, qu'on aurait trois surprises au ciel. Quoi? Ben, de ne pas y trouver ce qu'on y avait mis, d'office, d'y rencontrer ce qu'on avait envoyé en enfer. Et puis, troisièmement, de s'y trouver soi-même. Parce que quand on se connaîtra comme nous avons été connus, on dira, mais quand même, comment se peut-il qu'il m'ait aimé d'un tel amour? Il n'y aura pas du tout de gloire pour nous. On donnera toute la gloire au Seigneur. Puis, pour vous montrer comment nous sommes méchants, méchants, méchants. Vous n'irez pas dire après que je vous ai raconté des histoires, enfin, tout à fait... des hérésies. Bon. Qu'est-ce qui se passerait si tous les élus étaient derrière la porte du ciel? Le Seigneur va ouvrir la porte pour nous faire entrer. Et puis, tout à coup, on est en train de se demander, mais pourquoi est-ce que la porte ne s'ouvre pas encore? On voudrait aller voir quelle place le Seigneur nous a préparée dans les aimables demeures de sa maison, de la maison du Père. Mais il y a un petit retard, on ne sait pas pourquoi. Et puis, tout à coup, un ange arrive et proclame, Dieu a décidé de faire grâce à tous les hommes. consternation chez les églises. Alors, non, quand même, à quoi ça servait? Tout ce dont je me suis privé sur la terre, pour que ces crapules puissent entrer quand même. Et on est tellement furieux qu'on s'en va. Vous avez déjà vu notre cœur comme il est? Êtes-vous aussi heureux que Dieu fasse grâce aux autres? Je ne dis pas que ça sera ça. Hein. Mais je vous demande, est-ce que vous réjouiriez que d'autres que vous soient sauvés? Alors vous savez, cette prétention, moi je suis un sauvé. Mais non, mais si vous voulez, il n'y a pas même besoin de le dire. On le voit. Mais vous témoignerez de votre salut. Vous répondrez avec douceur et crainte à quiconque demande la raison de votre salut. Mais manifestez par votre vie que vous êtes réellement sauvé. Vous n'avez pas trouvé, par exemple, que la vie d'Abraham nous enseigne drôlement comment Dieu s'y prend avec nous? Quand vous repassez cela dans votre cœur. Donc il n'y a qu'un moyen de salut pour tous les hommes. Et pour tous les temps, ça a été la foi. La foi en celui qui devait venir est la foi en celui qui est venu et qui reviendra. Mais ça n'a jamais été le salut par les œuvres. Toutes les religions vous apportent les œuvres. Il faut faire des œuvres, il faut faire cela. Et font appel à la chair. Mais qu'est-ce que la chair peut faire de bien? Alors on vous met un fardeau pesant. Celle l'Évangile vous apporte la grâce. Voilà, on va terminer.
Père, merci encore une fois pour ce privilège d'écouter ta parole dans la terre. Et parlez-nous encore, change-nous, au nom de Jésus.
Amen.